I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Louis.
Le week-end dernier, j'ai vidé ma chambre d'ado chez mes parents, parce qu'ils vendent la maison. En triant mes affaires, je suis tombée sur plein de souvenirs qui laissaient déjà annoncer ce que j'allais devenir. Par exemple, une gazette du collège que j'avais fabriquée et distribuée dans les classes. J'avais signé fièrement « Rédactrice en chef, Camille Maestracci ». J'ai aussi trouvé une interview du maire de ma commune et des tonnes de fascicules sur le métier de journaliste. Il semble que, depuis toujours, j'avais une idée claire de ce que je voulais faire. D'ailleurs, c'est un sujet récurrent de discussion avec mon compagnon. En ce moment, il est, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, en plein questionnement sur sa carrière et sur son avenir. Je lui ai proposé de faire un bilan de compétences pour y voir plus clair. Mais il ne semblait pas convaincu. Pourtant, un de ses amis a bénéficié de ce fameux bilan de compétences et ça l'a vraiment aidé à se réorienter. Il a lâché son boulot de vendeur dans une boutique de chaussures pour entamer une formation dans le secteur de l'immobilier. Ce qu'il me raconte, c'est que le bilan de compétences n'a pas été nécessairement l'élément déclencheur, dans le sens où ce n'est pas ça qui lui a ouvert les yeux tout à coup sur cette nouvelle voie. Au fond de lui, il savait déjà un peu ce qu'il voulait faire. Mais il avait besoin de se l'entendre dire, un peu officiellement. Et donc, quelque part, c'est bien ce bilan de compétences qui l'a décidé à franchir le pas. Dans cet épisode, Clara Bayot s'interroge sur l'efficacité du bilan de compétences. Est-ce une solution miracle pour trouver sa voie ? Je suis Camille Maestracci, bienvenue dans Travail en cours.
Ça m'a vraiment aidé à éclaircir un petit peu et à dire, en fait, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me plaît comme environnement, c'est ça que je veux comme valeur, c'est ça que je veux ressentir quand je travaille quelque part. Ça m'a vraiment aidé à clarifier en fait les contours d'un boulot qui me plaise mieux. Là où c'était très très flou pendant des années, c'était pas encore une image hyper nette, mais au moins j'étais très loin du flou. C'est comme si j'avais mis mes lunettes, quoi. Donc j'ai vu plus clair, c'était vraiment ça l'avantage premier pour moi.
Celle que vous venez d'entendre, c'est Yasmine. Elle a 32 ans. L'an dernier, elle a fait un bilan de compétences. Pour elle, ça a été l'occasion d'un vrai changement de vie, puisqu'elle est passée de la vente de cosmétiques à bibliothécaire. Depuis quelques mois, elle fait un métier qui la passionne.
C'est un métier qui me plaisait parce que il y avait cet éventail très varié de missions quotidiennes. Ça fait pas longtemps, du coup, que je travaille en bibliothèque, mais aucune journée se ressemble vraiment, parce qu'il y a toujours des choses différentes, il y a des animations, il y a des livres à acheter, ça sera jamais les mêmes livres. Enfin, c'est hyper intéressant, et moi qui adore lire et qui adore les livres, je suis dans mon élément.
Sans bilan de compétences, Yasmine n'en serait sans doute pas là. Alors, est-ce que c'est une solution miracle pour réussir à s'orienter professionnellement et trouver sa voie? En tout cas, beaucoup de personnes tentent le coup. 15% des salariés en feront un au cours de leur carrière, selon la Fédération des centres interinstitutionnels des bilans de compétences. Et ça explose particulièrement ces dernières années. D'après la Caisse des dépôts et consignations, les bilans de compétences ont augmenté de 65% entre 2020 et 2021. Si on revient à leurs origines, les bilans de compétences apparaissent en France dans les années 80. Ils émergent dans un contexte de crise économique, après les deux chocs pétroliers. C'est le début de la fin du plein emploi, et le bilan de compétences est pensé pour réorienter les professionnels sur un marché du travail en crise. Depuis, les difficultés sur le marché de l'emploi se pérennisent, les bilans de compétences aussi. Alors sont-ils la bonne option pour naviguer dans un monde du travail qui évolue constamment et trouver quelque chose qui corresponde à nos attentes ?
Avant de faire mon bilan de compétences, je travaillais dans la vente pour une marque de soins cosmétiques un petit peu de luxe. J'ai travaillé quelques années en boutique et après, j'ai été chargée e-commerce. Donc, je m'occupais plus des ventes en ligne, du service client, internet, gérer tout le SAV. Voilà, j'ai fait ça pendant 5 ans et demi dans cette boîte de la vente. Ça se passait bien dans le sens où j'avais pas forcément de problème en soi, mais c'était pas un travail passion. C'était un travail un peu par défaut. J'ai postulé en fait après avoir terminé mes études, parce que comme je savais pas exactement quoi faire après mes études, il fallait bien que je paye mon loyer. Donc un ami m'avait parlé de cette entreprise, de ses boutiques. J'ai bien aimé la philosophie et même l'ambiance générale de la boîte, mais dire que c'était une passion, ce serait faux. Donc, c'était vraiment un travail alimentaire, même si ce n'était pas un travail désagréable en soi. J'ai passé des bons moments, j'ai rencontré des gens intéressants, j'ai appris des choses aussi par ailleurs. Mais faire de la vente, ce n'était clairement pas mon objectif dans la vie, quoi. Je ne savais pas en fait ce que je voulais faire. J'avais fait des études d'anglais et un master d'anglais. C'était un master de recherche, donc clairement, il n'était pas prédestiné à un boulot en particulier précis comme un master professionnel. Donc vraiment, j'étais un petit peu perdue et je restais dans ce poste, d'une part par confort, j'imagine, et aussi parce que j'ai changé, j'ai pas toujours fait les mêmes choses. On m'a un petit peu donné des responsabilités. À un moment donné, j'ai même pensé évoluer, mais ça s'est finalement jamais fait. Et au bout d'un moment, je me suis dit que... En fait, du moment où j'ai su que la rupture conventionnelle existait, je savais dans ma tête que ça allait sans doute être ma porte de sortie. Parce qu'il y a eu des bonnes choses, mais au bout d'un moment, je me suis dit que c'était plus possible, quoi.
Yasmine, c'est une littéraire qui aime les livres, l'anglais, la photo, qui aime écrire via son blog sur ses coups de cœur ciné, sur ses séries préférées. Alors vendre des crèmes et des baumes à lèvres toute la journée, ça ne lui correspondait pas. Ce qu'elle a en tête, c'est de travailler dans la traduction ou dans le monde des livres, mais ça n'est pas plus précis que ça. C'est grâce au bilan de compétences qu'elle va réussir à mettre au clair ses envies, à mettre des lunettes pour voir un peu moins flou, comme elle le dit.
En fait, ça m'a vraiment aidée à assumer ce que j'aimais le mieux d'un cadre de travail et d'un travail. J'ai besoin d'un cadre, j'aime bien aller quelque part, j'aime bien avoir des collègues physiquement, les voir, je voulais aussi un travail qui soit éventuellement, si possible, pas lié à des choses commerciales, mercantiles, qui n'ait pas d'objectifs chiffrés, qui n'ait pas trop de capitalisme. Non. Enfin, je veux dire, qui soit pas... je voulais plus de rapport marchand commercial comme j'avais pu avoir dans la vente pendant 5 ans. C'était vraiment pas mon truc. C'était une des choses qui me plaisait le moins dans mon ancien travail. Et c'est pour ça qu'au final, même le métier de libraire, c'est pas ce que j'ai retenu. Il y a toujours ces objectifs de vente et de faire du chiffre, etc. Et finalement, bibliothécaire, c'était vraiment le meilleur du monde des livres, sans cet aspect commercial. Plus, il y a aussi tout l'aspect relation avec le public, enfin accueil du public, qui m'a beaucoup plu, en fait, finalement, dans les anciens boulots que j'ai pu exercer. J'ai toujours été en contact avec le public. C'était un contact de vente, mais c'était toujours l'une des choses que je préférais. Comme j'ai un blog depuis très longtemps, j'ai toujours aimé partager mes coups de cœur, notamment dans ce que je lis et ce que je regarde au cinéma. Et bibliothécaire, c'est aussi un petit peu être ça. C'est un petit peu être prescripteur de choses, enfin conseiller des choses. Donc, il y avait cet aspect-là aussi qui me plaisait et qui m'a attirée dans le métier. Finalement, j'ai découvert que c'était un métier hyper intéressant et enrichissant.
Il aura donc fallu qu'elle arrive à la trentaine pour que Yasmine trouve le métier qui lui correspond. Pour elle, ce qui a tout changé, c'est d'être enfin accompagnée.
Cet accompagnement que j'ai pu avoir a tout changé. Si j'avais fait les exercices de moi-même, ça aurait sans doute aidé aussi, mais dans une très moindre mesure. Et surtout, j'aurais pas eu cet échange humain qui m'a semblé très important pour me rebooster. Enfin, vraiment, clairement, à chaque fois que j'ai fait les séances avec ma conseillère, c'était, je sortais de là, j'étais regonflée d'énergie, je savais où j'allais aller pour la suite. Elle m'avait vraiment reboostée, c'était vraiment nécessaire pour moi.
Le bilan de compétences, c'est un suivi individuel avec un seul conseiller qui va vous suivre environ 24 heures, généralement réparti sur 3 mois. Il y a plusieurs phases, une phase préliminaire avant même d'entamer un bilan de compétences pour vérifier que c'est bien ce qu'il vous faut et que le conseiller vous correspond. puis vient une phase d'introspection où il va falloir se poser des questions sur soi-même, sur ses valeurs, son passé, personnel et professionnel. À ce stade, on met à distance le marché du travail. Le but, c'est de comprendre qui on est, ce qu'on veut, et ça peut surprendre.
Bonjour.
Bonjour, je suis Clara.
Ah oui, enchantée.
Enchantée.
Je suis Vincent.
Bonjour.
Et Sébastien.
Enchantée.
Voilà où en est Sébastien lorsque je le retrouve en pleine séance avec Vincent, son conseiller.
On en est à justement donc faire la restitution de ces tests que Sébastien a passé cette semaine. Donc ça arrive en séance 3 et donc voilà, donc là, l'idée de ces tests, c'est à la fois d'identifier ses traits de personnalité principaux dans son rapport au travail, ses axes de progression éventuels, et puis ensuite de faire le lien vers des métiers ou des secteurs d'activité qui viendraient ou confirmer son orientation passée ou alors ouvrir vers d'autres perspectives professionnelles.
Sébastien est un jeune quinquagénaire qui a fait toute sa carrière dans les médias. Il envisage aujourd'hui une reconversion. Il a entamé un bilan de compétences il y a quelques semaines.
Voilà, donc là en l'occurrence, on est sur des oppositions entre différents traits et où Sébastien se situe entre ces deux traits. Ah, modestie versus ambition.
Bon, alors, ben, s'ils sont logiques dans ce test, j'imagine qu'ils ont confirmé l'ambition.
Exactement.
J'ai quelle note?
10.
Ah oui, d'accord.
10 sur l'ambition. 0 modestie. C'est toujours très drôle de connaissance. C'est-à-dire que je commence à le connaître. Donc, il y a 0 en modestie. Je crois que je ne l'ai jamais eu depuis que je fais passer ce test. Hein.
Mais il est possible que des vertus d'ambition ne soient pas en contradiction avec une forme de modestie. En tout cas, j'espère.
Tout à fait. Annoncez-moi. Il y a peut-être à distinguer une modestie personnelle d'une ambition professionnelle, d'ailleurs. On peut imaginer une personne qui sera à la fois ambitieuse sur un plan professionnel et au contraire modeste, humble,
oui,
sur,
oui.
Sur un plan personnel. Non, mais c'est intéressant. C'est très intéressant dans la projection également pour moi par rapport au type de poste ou de secteur d'activité vers lequel Sébastien pourrait aller. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir en tête cette idée-là.
Parce qu'après cette phase d'introspection, il y a la phase du projet. Cette fois, il va falloir réintégrer la notion de marché de travail. C'est-à-dire trouver un accord entre les motivations profondes de Sébastien et la réalité de l'emploi.
Le but du jeu, de ma part, c'est une reconversion. Oui. Après, j'étais dans l'incapacité absolue de savoir, finalement, et c'est en lien avec le fait de se connaître un peu mieux, j'étais absolument incapable de définir, et je le suis toujours, vers quoi je pourrais m'orienter. Donc, le but du jeu, c'est qu'on arrive à cette fameuse adéquation dont je vous parlais, et que Vincent me soumette des pistes de réflexion sur... Et ah bah, pourquoi pas, je ne sais pas moi, le social, la communication, l'administratif, l'immobilier, j'en sais rien du tout. Je pars presque de zéro là-dessus, c'est intéressant.
Comme vous l'entendez avec le témoignage de Sébastien, le bilan de compétences va vous demander de faire un retour en arrière sur ce que vous avez accompli ou pas, voire de remettre en question ce que vous pensiez être ou vouloir. Vous allez vous appuyer sur le passé pour déterminer votre avenir. Aurélie Gonnet est sociologue du travail. Elle a publié en 2020 une thèse sur le bilan de compétences. Ce qui ressort notamment de ses recherches, c'est que c'est une démarche qui peut être réductrice.
Ce que j'essaye de montrer, c'est que véritablement, dans le bilan de compétences, on a la combinaison d'une approche rétrospective, introspective et prospective. Et du coup, ces parts rétrospectives, donc passées et introspectives, sont quand même très dominantes parce que du coup, on a les premières phases du bilan où souvent, on va commencer par faire raconter le parcours. Hein. Donc, on a une analyse plus ou moins approfondie de parcours. Hein. Il y en a qui utilisent des outils type histoire de vie, etc. Voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais du coup, on a déjà une analyse de ce parcours. Après, on va avoir certains conseillers là aussi qui ont des outils type, par exemple, génogramme, donc c'est-à-dire qu'ils vont demander, par exemple, les métiers de tous les parents, grands-parents, frères et sœurs, etc. Donc, on a cette cartographie des métiers, etc. Et puis après, on va analyser petit à petit, avec notamment ce qu'on appelle le portefeuille de compétences, les expériences passées. Donc, à la fois pour identifier des compétences, pour identifier les situations problématiques, pour identifier aussi les intérêts, les valeurs, la manière dont les personnes s'en sont sorties. Donc, en fait, on a véritablement cette analyse du passé qui encore une fois, a son importance, mais du coup, qui devient finalement prédictive. Alors que, par exemple, l'expérience pourrait être valorisée d'une toute autre manière. C'est ce que tentent de faire souvent les conseillers bilan et notamment un outil comme le comme le portefeuille de compétences, de mettre en valeur des compétences qui ne seraient pas sanctionnées par un diplôme, qui ne seraient pas validées par une certification, mais de dire « vous avez quand même ces compétences ». Ça a un effet, hein, souvent, quand même, sur les personnes qui se sentent souvent, justement, sortir de leur entreprise complètement incompétente, complètement dévalorisée. Donc, ça a un effet remotivant. Mais par contre, pour des personnes qui ont eu des expériences professionnelles très peu valorisantes, qui peuvent en tirer très peu de compétences, bah, du coup, ça peut avoir aussi un effet un peu double peine, où en plus, on vous demande d'être en boucle, enfin, en tout cas, de tirer des qualités de ces expériences passées qui ont été très peu enrichissantes. Et du coup, c'est ce que je montre dans mon travail, c'est qu'on a plutôt un phénomène d'inertie socio-professionnelle où véritablement, on a des parcours qui restent finalement assez linéaires et on n'a pas beaucoup d'ascension verticale. On a peut-être plus d'évolution horizontale que verticale.
Oui, ça, c'est intéressant, cette idée d'inertie socio-professionnelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que le bilan de compétences, tout est possible, on met les compteurs à zéro, alors qu'en réalité, ce n'est pas vraiment ce qui se passe.
Non, c'est pas vraiment ce qui se passe. Sous deux effets, à la fois, les personnes souvent ont peur, hein, quand même, d'évoluer quand même radicalement, de changer. Effectivement, quand ça suppose une ascension professionnelle, souvent c'est des études, etc. Et pour des personnes, effectivement, qui ont eu des parcours plus ou moins heurtés de formation initiale, c'est pas simple, hein. Et par ailleurs, comme je le disais, il y a aussi un manque de financement, hein, sans doute pour des reconversions de plus grande ampleur. Et moi, ce qui me semble être une limite propre au bilan de compétences, c'est encore une fois ces outils et le fait qu'on s'appuie beaucoup en fait sur le passé de la personne. Et du coup, en s'appuyant sur ce passé, du coup, si le passé est prédictif de l'avenir, forcément, vous n'allez pas changer radicalement les choses. Hein. Et encore une fois, ça a du sens aussi dans cette idée de sécurisation, hein, de se dire, si on s'appuie sur ce qui est déjà acquis, du coup, ça a plus de chances d'aboutir, certes. Mais du coup, effectivement, on reste, si on fait par exemple, j'avais fait un test de valeur professionnelle. Ce qui ressortait comme valeur professionnelle, c'était peu d'intérêt pour la rémunération économique, beaucoup d'intérêt pour le travail intellectuel, etc. Et ça, c'était considéré comme mes valeurs professionnelles. Sauf qu'on peut se dire, est-ce que c'est mes valeurs à moi ou est-ce que c'est les valeurs de mon milieu professionnel? Et du coup, si on considère que c'est mes valeurs à moi, on va m'orienter toujours vers le même type de poste. C'est assez cohérent. Mais encore une fois, ça ne permet pas, du coup, effectivement, de dévier de sa voie et notamment d'être en ascension, par exemple, professionnelle.
Dans le cabinet de Vincent Maritano, 40% des personnes qui ont réalisé un bilan de compétences décident d'évoluer dans le même poste. Quand j'entends ce chiffre, je commence à me dire que le bilan de compétences n'est peut-être pas tant que ça un remède miracle pour les travailleurs qui cherchent leur voie. En s'appuyant beaucoup sur le passé et sans financement de formation longue, le bilan de compétences n'est pas forcément une page blanche ou la remise à zéro dont parlait Sébastien. 40% de personnes qui évoluent sur le même poste, ça veut dire que le bilan de compétences n'aboutit ni forcément à des ascensions verticales, ni à des reconversions dans d'autres métiers complètement différents. Pour Aurélie Gonnet, ça s'explique aussi par le fait que les personnes qui font des bilans de compétences ne ressentent pas forcément un malaise vis-à-vis de leur métier, mais plutôt par rapport à leurs conditions de travail.
Ce que je peux constater dans mes travaux, c'est que effectivement, les gens viennent souvent en bilan de compétences en disant qu'ils veulent changer de métier, mais très profondément, en fait, c'est de conditions de travail et d'emploi souvent qu'ils veulent changer, parce que le métier en tant que tel, en fait, quelques-uns, certes, en ont fait le tour, mais la plupart, ont des conditions de travail de plus en plus délétères, des conditions d'emploi, ne sont pas forcément menacés d'un licenciement, mais par contre, n'arrivent plus à bosser dans les conditions dans lesquelles ils doivent travailler. Donc, pour de différentes raisons, que ce soit du management, des conflits avec les collègues, à la création du bilan, on avait véritablement l'idée d'un dispositif qui permette très librement aux gens, à un moment, quand ils ont une autre envie de bifurquer, de pouvoir le faire. Et petit à petit, en fait, on a un dispositif qui devient aussi un amortisseur des maux du travail, MAUX, hein, des difficultés que connaissent les gens au travail.
En d'autres termes, c'est un dispositif qui répond au malaise des travailleurs de manière individualisée et personnalisée, alors que le problème est souvent plus global. Mais faute de mieux, c'est ce dispositif vers lequel les travailleurs se tournent. C'est peut-être pour ça que les bilans de compétences ont explosé depuis la pandémie, parce que cette période a provoqué une remise en cause profonde des conditions de travail. D'après une enquête BVA réalisée en juin 2021, 20% de la population active a commencé à se questionner sur la possibilité d'un changement professionnel pendant la crise sanitaire. On l'a vu, les bilans de compétences ne sont peut-être pas la meilleure solution, ni la plus efficace pour opérer ce changement. Une des raisons, c'est aussi qu'on trouve énormément d'offres de bilans de compétences qui ne sont pas du tout harmonisées. Aujourd'hui, on ne peut faire un bilan de compétences qu'à travers des prestataires privés, même si le dispositif est encadré par le Code du travail. En faisant une rapide recherche via mon propre compte formation, j'ai trouvé plus de 17 000 offres de prestataires autour de chez moi, en banlieue parisienne. Les prix peuvent varier du simple au double, de 1 200 euros à 3 000 euros pour 24 heures de prestation. Selon la sociologue, cette disparité s'explique parce que le bilan de compétences n'est pas suffisamment contrôlé.
Il a été quasiment oublié par les pouvoirs publics et de fait, hein, on a très peu de données sur le bilan de compétences. On ne sait pas en France combien de bilans de compétences sont réalisés chaque année. On n'a pas beaucoup de données sur le public et moi, c'est vrai que, par exemple, pour trouver ces informations, il a fallu que j'aille dans des documents qui s'appellent des jaunes budgétaires. Enfin, en gros, c'est les annexes dédiés à la formation professionnelle, des projets de loi de finances, où vous avez des petits chiffres par-ci, par-là, qui ne sont pas redondants d'une année sur l'autre, et du coup, en fait, on a très peu de données. À la base, toutes les personnes qui exerçaient le bilan de compétences doivent remplir normalement légalement un document statistique et financier annuel qui permet justement de documenter tout ça et d'en sortir des données. Mais typiquement, la DARES, donc le département des études du ministère du Travail, a arrêté de traiter ces données parce qu'elles étaient de trop mauvaise qualité. Donc effectivement, la question de la régulation, elle est réelle. Ne serait-ce que, voilà, on n'a pas beaucoup d'informations et on n'a pas beaucoup non plus de dispositifs d'encadrement des centres, hein, puisque souvent les agréments sont renouvelés principalement sur le fait de présenter des synthèses de bilan anonymisées. Mais c'est comme si, par exemple, on évaluait la qualité d'un enseignement en présentant les meilleures copies. Donc ça pose aussi cette question, hein, de savoir justement comment ce dispositif est régulé, et notamment effectivement dans le cadre d'un financement public.
Au lieu de faire reposer l'orientation professionnelle des adultes sur une initiative personnelle, individualisée, dans un marché du travail compliqué pour beaucoup d'entre nous, on pourrait aussi penser à un service public, accessible à tous, de manière flexible, comme ça existe ailleurs.
Au Canada, le système d'orientation professionnelle est un peu différent puisque c'est véritablement un petit peu comme le CIO, c'est quelque chose de public. Hein. Et du coup, ça a au moins comme intérêt, à la différence du cas français où on a en fait un marché de prestataires de la reconversion, de l'accompagnement, un marché du bilan de compétences, finalement d'avoir beaucoup de concurrence et du coup une concurrence qui se fait par les outils, très peu de formations communes puisqu'il n'y a pas de contrôle à l'entrée sur ce marché. Et du coup, déjà ça, par exemple, ça permettrait d'avoir une prestation qui est plus unifiée. C'est un système qui est très calqué sur ce qu'on connaît, nous, en termes d'orientation des jeunes avec des conseillers, effectivement, du coup, qui ont une formation commune, qui sont recrutés et qui sont fonctionnaires, hein, qui sont des employés d'administration publique, donc du coup, effectivement, qui ont, encore une fois, une formation commune et du coup, qui ont aussi une forme de sécurité de l'emploi, hein, ce qui se passe très peu sur les marchés privés, notamment dans le bilan de compétences en France, hein, où il y a beaucoup de précarité aussi. Du coup, effectivement, ça assure à la fois des conditions de travail qui permettent d'avoir plus de sérénité et puis moins on va moins essayer de s'adapter au client, parce que du coup, le client est un client et du coup, il faut faire du chiffre aussi, hein, malgré tout. Et du coup, on a un système effectivement qui est plus soutenu, en tout cas, qui est plus solide, qui est plus, enfin voilà, plus serein en termes de formation commune, de pratiques communes et aussi de sécurité de l'emploi pour les conseillers.
Au Canada, le guichet emploi propose des offres de travail, mais aussi des outils pour planifier sa carrière et connaître le marché de l'emploi, les tendances actuelles et celles à venir. Il est possible de faire des questionnaires d'orientation en ligne ou de rencontrer un conseiller. C'est un service gratuit. Pour avoir vécu et travaillé au Canada quelques années, mon sentiment, c'est que c'était beaucoup mieux vu là-bas de passer d'un métier à un autre, voire de changer de métier pour ensuite revenir à son précédent emploi. La réorientation n'était pas du tout vue comme un échec, mais comme le fait de saisir de nouvelles opportunités. Rien n'était figé. Parce que personne ne mérite de faire tous les jours un métier qui lui déplaît ou qui ne s'accorde pas avec ses valeurs, ses choix personnels.
Je ne suis pas certaine que je serais forcément là où je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait le bilan. Et ça donne un peu le vertige d'imaginer ça, finalement, parce que, bon, il suffit d'un rien. Peut-être que finalement, j'aurais découvert beaucoup plus tard que le monde des bibliothèques, ça me plaisait aussi. Mais vraiment, ouais, non, je ne pense pas du tout que je serais pas très loin de là où je suis maintenant, mais j'y serais pas, clairement.
Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Clara Bayot. Louise Emerlé est en charge de la production de Travail en cours. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, Le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt!
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6€ sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.